Chapitre 25. La grande vénerie. Je vais chercher Kieran. J'ai besoin de lui. Pour réfléchir. Je ne sais pas ce que les druides devront faire demain. Devrais-je les prendre avec moi? Et quand j'aurai fini, disparaîtront-ils comme la légende dit que disparaîtra le Saïman? Peut-être. Mais si tout cela doit disparaître, ces instants me manqueront. Ces rencontres dans le monde de Jar. Le voilà, dans son costume de cheminant. Son sourire, son air rêveur. Qui le connaît aujourd'hui comme je le connais? Qui sait ce qu'il m'offre chaque fois que je le retrouve ici? Comment se souviendra-t-on de ce druide quand il ne sera plus? Il sera l'un de ces êtres silencieux qui ont marqué l'histoire sans attendre aucune gloire en retour. Et les gens l'oublieront. La reconnaissance à la mémoire courte. Avez-vous vu ma louve, Kieran, dans le monde de Jar? La louve blanche? Non, je ne l'ai pas vue ici depuis longtemps. Je tremble. La plus terrible pensée traverse mon esprit. Est-il possible qu'elle soit morte? C'est possible. Mais il est possible aussi que ses songes ne l'entraînent plus ici, tout simplement. Les êtres qui ne contrôlent pas leur présence ici peuvent parfois rester des années entières sans faire aucune apparition dans le monde de Jar. Elle me manque. C'est une louve, Aléa. Sa vie est meilleure loin des hommes. C'est juste. Et pourtant, elle me manque. Kieran me regarde. Il y a un peu de Félim dans ses yeux. Je me souviens de ce regard. Tout est allé si vite, les rencontres et les séparations. Où en est le conseil? Hernan a convaincu tous les frères que nous devions vous rejoindre, sauf un. À Angus? Oui. Il nous a quittés à son tour, sans préciser où il allait. Peut-être va-t-il rejoindre la reine.
Sans doute. La reine. Amine. Comment nos vies ont-elles pu ainsi nous placer où nous sommes maintenant l'une et l'autre? J'aimerais tellement comprendre. J'aimerais te voir, Amine. Voir ce qu'il reste des enfants que nous étions.
Aléa, nous partons maintenant pour Tarnéa. Hernan veut vous y rejoindre.
Bien, vous ne serez pas de trop. Vous garderez la ville avec les soldats de la Terre et les Touatanes.
Pas vous, Aléa?
Non. Ma place est sur les routes, druide, vous le savez bien. Et je supporte mal d'être auprès de cette armée. De mon armée. Je sais qu'elle est nécessaire. Je sais que j'ai besoin d'elle. Mais j'ai aussi besoin d'être seule, juste avec quelques compagnons.
Je comprends. Avez-vous réfléchi à la question que je vous ai posée la dernière fois?
La question. Oui, bien sûr. Elle ne me quitte pas l'esprit une seule seconde. Quel Gaëlia je voulais construire? Je ne pense qu'à ça, Kieran, mais je ne crois pas que je puisse y répondre seule. Je sais de quel Gaëlia je rêve, mais je sais aussi que les rêves ne sont jamais la réalité et que je ne pourrai sans doute pas y parvenir.
Essayez au moins de vous en approcher.
J'essaie, druide. Et j'essaierai toujours.
Ils étaient partis au petit matin, après une longue nuit d'un sommeil réparateur et réconfortant. La bonne humeur était revenue parmi les rangs depuis qu'ils étaient sortis des cavernes de Gordraka. Aléa et ses compagnons avançaient en tête du convoi, entourés d'une petite escorte où se mêlaient Touatan et soldats de la Terre. Ils avaient marché toute la journée quand ils arrivèrent enfin en vue du village de Clulin. La campagne se colorait déjà du bleu de la fin du jour. Un doux vent d'automne venait caresser les herbes hautes, dessinant des vagues gracieuses sur l'horizon doré. Derrière eux, la chaîne de Gordraka s'éclairait à son sommet d'un rose pâle. Le ciel n'était pas encore noir, mais on devinait déjà les premières étoiles.
« Aléa, veux-tu que nous campions ici ou que nous allions jusqu'au village ?» demanda Erwan.
« Je ne pense pas que le village pourrait accueillir 500 hommes.
répondit la jeune fille en souriant. « Non, mais nous pourrions monter notre camp à proximité, » suggéra le Magistel. « Je pense que c'est ce que nous avons de mieux à faire, » admit Aléa. « Cela nous permettra sans doute de recruter quelques hommes et de prendre quelques nouvelles de l'île. Il y a peut-être un barde dans ce village. Bien, je dirai aux soldats d'installer le camp près du village pendant que nous irons tous les six rencontrer les habitants. En te voyant de près, les villageois seront sans doute honorés. » Aléa acquiesça en soupirant. Le jeune Aldaman lui fit un clin d'œil, puis il partit donner des ordres au capitaine.
« Tu dis qu'il doit y avoir un barde dans ce village ?»
reprit M'Jol en s'approchant d'Aléa.
« Ah, voilà qui ferait bien mon affaire, ça oui. Parce que malgré ses belles promesses, notre ami druide ne m'a pas encore enseigné grand-chose. Promesses de druide, j'aurais dû, là, m'en douter. »
« Je suis venu vous voir hier soir, petit homme, » se défendit le druide derrière lui. « Je voulais m'entretenir un peu avec vous de ces choses-là, mais vous dormiez comme un nourrisson. »«
Ça, que me vouliez-vous ?»«
Je voulais vous apprendre quelques triades bardiques, monsieur Abak. Car pour devenir barde, il vous faut les connaître. Il ne suffit pas de savoir jouer de la cornemuse, ce que, soit dit en passant, vous faites déjà fort bien. »«
Vrai ? Vous vouliez m'apprendre les triades ?»
s'excita le nain.
« Eh bien ça, il nous reste une petite trotte jusqu'au village. Pourquoi ne pas m'en apprendre sur la route, mon bon druide ?»«
Entendu, » répondit Fingin. Le druide entraîna donc Bjoln un peu à l'écart. Ils marchèrent devant, et jusqu'à la fin du trajet, on entendit de temps en temps les longues litanies que Fingin faisait répéter au nain. Trois obligations nécessaires de l'homme, souffrir, changer, choisir. Trois contemporains primitifs, l'homme, le libre arbitre, la lumière. Trois garanties de la science, cesser de parcourir chaque état de vie, se rappeler le parcours de tout état et ses incidents, pouvoir parcourir tout état à volonté. Le nain répétait chaque triade avec précision, et comme lorsque Face lui avait appris jadis à jouer de son instrument, dans ses yeux brillait une joie merveilleuse. Ils arrivèrent au début du soir devant les portes du petit village. Des enfants avaient couru jusque-là pour les voir approcher. Ils semblaient captivés par les costumes étranges des Tuatan et par les bannières rouges et blancs des soldats de la terre. Mais derrière eux, quelques miliciens regardaient le convoi avec un œil inquiet. Pendant que Tagor donnait les ordres pour qu'on installe le campement en amont du village, Erwan partit seul vers ses miliciens. Les enfants s'écartèrent sur son passage, impressionnés par son armure de plate et son imposante carrure. « Bonjour, Galassien. Je suis Erwan Aldaman, fils de Galiad, magistel de Fingin le druide et général des soldats de la terre. Voici l'armée d'Aléa Casfad, celle que les druides nomment Samil Danak. » « Bonjour, » répondit simplement l'un des miliciens. Les enfants pouffèrent en voyant à quel point celui-ci était mal à l'aise. Il était sans doute beaucoup plus sûr de lui, ou arrogant, quand il s'adressait aux gens du village et était probablement en train de perdre beaucoup de sa superbe. « Nous sommes en route pour Tarnéa, » reprit Erwan, « et nous allons passer la nuit près de votre village. Nous espérons ne pas troubler votre quiétude. » « Non, bien sûr, soit... » « Soyez les bienvenus, » balbutia le jeune milicien en tendant la main au magistel. « Y aura-t-il de la place à dîner dans votre auberge pour le Samil Danak et ses cinq compagnons ?»« Bien sûr. Nous ferons en sorte qu'une table soit préparée, général. » Erwan le remercia et retourna vers le campement qui s'installait déjà. Les enfants du village, enchantés, partirent en courant pour annoncer la nouvelle à leurs parents. L'une des louveteries les plus actives du pays était au sud de Fendanen, sur les plaines du seigneur Germain de Gorbon. Le château de celui-ci était typique de l'est de la Gaelia, simple mais robuste, et la vie de la région s'organisait autour de lui. L'enceinte du château, construite d'une pierre aussi jaune que la terre de cette partie du royaume, était ponctuée de six larges tours de taille égale. À l'intérieur, plusieurs dépendances entouraient le bâtiment principal, les logements des valets, mais aussi tout ce qui permettait de s'occuper des animaux, écuries, chenils, bergeries et fauconneries. Dans le corps central, on trouvait la boulangerie, la cuisine et la grande salle à manger où les armes de Gorbon, quatre roues de bois sur fond bleu, décoraient de larges piliers. Ensuite venait la salle de justice, où le seigneur réglait les conflits et jugeait les vilains, ceux qui volaient, violaient, tuaient, ou tout simplement ceux qui ne s'étaient pas acquittés des droits de blé dus au sénéchal ou de mouton dus au louvetier. À côté se trouvait la grande salle d'armes, qui était sans conteste la plus belle du château de Gorbon. C'était là que le seigneur recevait ses visiteurs et exhibait ses plus belles pièces. À l'étage se trouvaient enfin les nombreuses chambres à coucher. Quand le chevalier Ultan arriva devant le château, il vit des paysans autour de l'édifice qui battaient l'eau du fossé avec des gaules. La châtelaine était en couche, et Germain de Gorbon avait ordonné à ses manants de faire taire les grenouilles qui, en coassant, empêchaient la dame de se reposer. Un serviteur vint accueillir le visiteur et le guida à travers la cour du château. Quand ils arrivèrent devant les écuries, Ultan enleva son aume et descendit de cheval. Le serviteur découvrit alors le visage sévère du chevalier. Des traits durs, un regard noir, de nombreuses cicatrices, mais surtout cette étonnante chevelure blanche, coiffée vers l'arrière, qui retombait sur sa nuque épaisse.
« Le seigneur de Gorbon vous attend dans la salle d'armes, » annonça le serviteur.
« Merci, je connais le chemin, »
répondit Ultan en se dirigeant vers le corps principal du château. Il pénétra dans le bâtiment, traversa le long couloir qui menait dans la grande pièce. Là, un jeune valet lui ouvrit la porte. La salle était beaucoup plus richement décorée que le reste du château. La plupart des murs étaient habillés de velours et de tentures. On avait disposé ça et là sur de grands bahuts de bois sculptés, vaisselle et bibelots colorés. De grands piliers soutenaient les arceaux au plafond, et on y avait fixé armes et armures, bannières et pennons armoriés. Le mur opposé à l'entrée avait été blanchi à la chaux et orné de rosaces et de fleurons. Au milieu pendait une tapisserie de haute lisse où figurait une scène de la bataille d'Harcourt. Au pied de ce mur, un haut trône de chêne était entouré de nombreuses chaises à bras couvertes d'étoffes. « Bienvenue à Gorbon, maître, » déclara le châtelain en s'approchant d'Ultan.
« Vous avez soigné le décor de cette pièce, »
répondit Ultan en méprisant la main que lui tendait le seigneur de Gorbon.
C'est ici que mes vassaux viennent me rendre hommage. J'aime à les accueillir dans une pièce qui est le reflet de la bonne santé du domaine. Bonne santé. Combien de loups avez-vous tués dans le mois?
Maître, ma louveterie a le meilleur rendement de l'île et...
Combien?
Le coupa Ultan en avançant vers le châtelain. Germain de Gorbon se frottait les mains d'un air terrifié.
Près de 100,
répondit-il en reculant d'un pas. Ultan lui envoya une grande gifle. Le châtelain fut projeté au sol par la violence du choc. Le métal des gants du chevalier avait entaillé sa joue. Du sang coulait jusque dans son cou. Il se releva en titubant. Ultan traversa la pièce d'un pas exagérément lent. On entendait le cliquetis de son armure à mesure qu'il avançait. Puis il s'assit sur le trône de son hôte et regarda celui-ci, immobile et muet, qui se tenait la joue à l'autre bout de la pièce.
Vous ne m'avez toujours pas répondu, Gorbon. Combien exactement?
92,
souffla le châtelain.
Approchez.
Germain de Gorbon hésita un instant, puis il se résigna à avancer. Il ne parvenait pas à croire qu'Ultan pût venir ainsi l'humilier dans son propre château. Heureusement, aucun serviteur n'assistait à la scène, mais il aurait peine à masquer la blessure sur sa joue.
« Vous savez qu'il vous a demandé de tripler ce chiffre dès le premier mois, Germain. »«
Nous tuons déjà deux fois plus de bêtes que les autres louveteries. »«
Le maître n'attend qu'une seule chose de ses veilleurs, qu'ils lui obéissent. »« Je ne vous demande pas si vous tuez plus de loups que vos voisins. Je vous demande de satisfaire ses exigences. »
Le châtelain fit quelques pas vers le trône, et en baissant la tête, dit d'une voix pitoyable.
« Ultan, je dois vous avouer, au risque de m'attirer votre colère, que je ne pense pas qu'il soit possible de tuer 300 loups en un seul mois. »
Le chevalier se leva et s'approcha de Gorbon. Il l'attrapa par le menton pour le forcer à lever la tête. Son pouce ganté appuyait sur la blessure et le flot de sang se remit à couler.
Gorbon, j'ai vu les manants dehors. Ils essayaient de faire taire les bêtes qui grouillent dans tes douves, n'est-ce pas ?
Oui,
balbutia le châtelain.
Ta femme doit te donner un enfant ?
Gorbon acquiesça, ses yeux emplis de terreur.
Je vais aller voir ta femme, Germain, et quelque chose me dit que tu vas changer d'avis.
Des larmes apparurent au coin des yeux du châtelain.
Oui, quelque chose me dit que tu vas prendre cette chasse plus au sérieux,
reprit Ultane en serrant de plus en plus fort le menton de Gorbon.
Que tu vas envoyer plus d'hommes, organiser plus de battues, faire tendre plus de pièges, augmenter les primes. N'est-ce pas ?
Gorbon acquiesça en tremblant.
Et tu verras alors que tu peux tuer bien plus de loups même qu'ils ne te le demandent.
Ultane repoussa violemment le châtelain en arrière. Celui-ci s'écroula de nouveau. Le chevalier traversa la salle sans ajouter un mot, et Gorbon entendit au loin qu'il partait vers le premier étage. Fingin passa la soirée auprès de Caitlin. Il était fatigué, et plutôt que de prendre part aux conversations, il se contenta, en retrait, d'écouter les autres ou de regarder l'actrice avec tendresse. Il buvait ses paroles. Admirait sa grâce, son sourire. La cheminante prenait part à toutes les discussions et l'on voyait sa joie se communiquer aux convives.
Quelle liberté ! Caitlin est la seule ici qui n'ait aucune obligation envers quiconque et cela rend ses discours tellement plus sincères.
Je comprends mieux le sens de la philosophie des cheminants à présent. Nous sommes tous prisonniers de notre histoire. Eux ne le sont pas. Je suis prisonnier de mon appartenance au conseil. J'ai besoin et envie de revoir Saïmina, de parler avec Hernan une nouvelle fois. Mjoln rappelle souvent qu'un jour il voudrait retourner dans ses collines, et en plus il veut maintenant rejoindre la caste des bardes. Tagor se doit au Tuatan. Aléa se doit à l'île tout entière. Mais Caitlin, elle, est libre. Et toutefois ce n'est pas un choix si facile. Je ne suis pas sûre que j'en serais capable. Fingin prit la main de la cheminante sous la table et la serra fort entre ses paumes. L'actrice lui adressa un sourire. Puis elle se retourna de nouveau et reprit sa discussion avec les autres. L'auberge de Clulin était grande, mais sans charme particulier. On y servait des plats simples, pâtés de narois, un mélange de foie de morue et de poisson haché, ou petits pâtés, où quelques raisins secs venaient se mélanger à la viande. L'aubergiste faisait aussi des rôtis honorables, du bœuf jusqu'au cygne, des salades composées de légumes cuits, de pâtes et de foie ou de cervelle de volaille. Au dessert, les compagnons se contentèrent de poires cuites avant de retourner auprès du feu où se réunissaient les habitants du village. Fingin, qui était fatigué, se leva péniblement et partit s'asseoir derrière Caitlin dans une grande chaire. L'auberge n'avait sans doute jamais accueilli autant de clients en un seul soir. Tous les villageois avaient fait le déplacement pour venir voir Aléa, la jeune fille dont on parlait si souvent depuis plusieurs semaines déjà. Comme l'avait espéré Aléa, il y avait bien un barde dans le village. Avendal avait partagé leur repas et discutait maintenant avec eux près du feu. C'était un homme âgé, mais à l'esprit vif et malicieux, et tous le trouvèrent fort sympathique.
« Sait-il que Saïmina est divisée ?» se demanda Fingin. « Que deviendront tous ces bardes et tous les druides qui restent dans les petits villages de l'île, loin des manigances du conseil ?» C'est en perdant le contact avec ceux-là que les grands druides ont amorcé la ruine de Saïmina. « Les miliciens nous ont dit tout à l'heure que vous partiez pour Lassar. C'est bien vrai ?»«
Voilà bien un vrai barde, » s'amusa Fingin.
Il commence par vérifier ses informations. Bientôt, il pourra renseigner les siens et les nouvelles circuleront à travers le royaume.
Oui, nous allons à Tarnéa, expliqua Erwan.
Mais c'est bien le seul endroit de l'île où il ne se passe rien,
s'étonna le barde.
Il y a tant à faire en Galassie, en Terre Brune ou en Harcourt.
Cherche-t-il à savoir si quelque chose se cache dans le choix de notre destination, ou est-il inquiet des guerres qui continuent de menacer ici ?
Ce n'est pas tout à fait vrai, répliqua Aléa. Il se passe bien plus de choses dans le comté de Sarre que vous ne semblez le croire. Mais surtout, c'est finalement le comté le plus libre de l'île. Saïmina divisée, les druides n'auront plus sur la Sarre le même pouvoir qu'avant. Pour l'instant, les chrétiens n'ont pas tenté d'y convertir tout le monde. Quant à Amine, elle s'occupe de la Galatie et laisse tranquille, pour l'instant, le comté qu'il a vu naître. En somme, les Sarrois bénéficient d'une liberté que bien des Galatiens pourraient leur envier. Et c'est non seulement pour préserver cette liberté que je veux aller à Tarnéa, mais aussi pour qu'elle rayonne depuis la Sarre jusqu'au reste de l'île.
Fingin leva les yeux vers Aléa. Elle exprime ses véritables souhaits pour la première fois. Elle est en train de comprendre ce qu'elle veut faire. Au fur et à mesure qu'elle parle, elle éclaircit sa propre pensée. Elle n'avait pas encore formulé cette idée jusqu'à présent, et pourtant voilà, c'est cela. C'est aussi simple que cela. La liberté pure de la Sarre. C'est cette liberté qu'Aléa veut retrouver et redonner à l'île. Bien sûr.
Je ne suis pas certain que les Sarrois se sentent si libres et si heureux que vous semblez le croire,
modéra le barde. Ils pourraient sûrement l'être davantage, certes, mais au moins, rien ne leur est sauvagement imposé pour le moment.
Elle est un peu dure avec les miens. Je ne crois pas que les druides aient jamais imposé quoi que ce soit sauvagement. Et pourtant, je dois peut-être regarder l'histoire autrement. Réapprendre, réinterpréter. Les doutes d'Aléa doivent me permettre de remettre en question ce que j'ai toujours cru acquis. Ce n'est pas facile, mais je crois que c'est le sens de la venue d'Aléa. Elle est celle qui nous oblige à nous questionner nous-mêmes.
Mais, cher Bard, à vous de nous donner un peu des nouvelles du monde, reprit Aléa.
Il se passe tant de choses,
répliqua Havendal. En Galatie ?
Notre reine est sans doute le plus fin stratège dont pouvait rêver l'île,
s'exclama le barde. Il est ironique, mais il sait à qui il s'adresse. Il y a les villageois, qu'il ne veut sans doute pas choquer ni inquiéter, et il y a Aléa, dont il sait qu'elle comprend ce qui n'est que suggéré à demi-mot.
Après avoir offert aux druides qui ont quitté Saïmina de s'installer dans la tour de l'Aurélien, elle est parvenue à les convaincre non seulement de l'initier, mais aussi de la nommer archidruide. Une femme. N'est-ce pas formidable ?
Je ne saurais dire si ça l'est, répondit Aléa. Mais je dois avouer que l'ironie est plaisante, non ?
C'est la femme qui parle. La petite fille qui voulait apprendre à lire. Celle qui écoutait aux portes du conseil. Et oui, elle a raison. L'ironie, sinon plaisante, est au moins juste. Qu'avons-nous si longtemps écarté les femmes de nos institutions, alors qu'Aléa et Amine sont la preuve que ni le Saïman, ni la finesse politique ne leur sont inaccessibles? Les conséquences de l'initiation d'Amine seront peut-être désastreuses au niveau politique, mais peut-être bénéfiques sur le plan culturel. C'est certain, la Gaëlia dont rêve Aléa est un pays où hommes et femmes partageront équitablement le pouvoir. Mais est-ce seulement possible?
On raconte toutefois que Aenon l'a initié à contre-cœur,
précisa le barde.
Vous savez, pour nous les bardes, les choses sont moins compliquées. La caste des bardes a toujours été ouverte aux hommes comme aux femmes. J'ai toujours pensé qu'un jour une vatte finirait par trouver le chemin du druidisme.
Vous étiez bien clairvoyant alors, intervint Kathleen. Et que vous dit cette clairvoyance aujourd'hui ? Amine sera-t-elle une bonne reine ?
Kathleen le piège. Il ne saurait dire ouvertement du mal d'Amine, même s'il est évident que, comme la plupart des Galatiens, je pense, il ne la porte pas dans son cœur. En lui posant cette question, Kathleen le force à prendre position. Les cheminants aiment cela, nous confronter à notre vérité. Mais le barde saura sûrement s'en sortir.
Je crois que, pour l'instant, son souci est surtout d'être une bonne druidesse,
répondit Havendal, non sans sourire.
Kathleen ne va pas le laisser s'en tirer comme ça.
Vous voulez dire qu'elle néglige son rôle de reine ? Demanda en effet l'actrice.
Le barde regarda autour de lui. Les miliciens étaient dans l'auberge, comme tout le reste du village.
Pas si son action au conseil sert le royaume.
Le sert-elle ? Insista Kathleen.
Elle n'abandonnera pas. Ce pauvre barde est tombé sur plus fort que lui.
Elle a déjà beaucoup agi en tant que reine. Il n'y a jamais eu autant de changements dans le royaume que depuis qu'elle est à sa tête. Quant à savoir si son histoire avec le conseil pourra servir le royaume, n'est-il pas trop tôt pour en juger ?
Si l'on ne devait évaluer nos dirigeants qu'après leurs erreurs, il y en aurait tant de commises qu'on ne pourrait jamais s'en sortir,
s'amusa Kathleen.
Mais comment les juger alors ? Sur leur passé ? On ne sait pas grand-chose de celui de la reine.
Si ce n'est qu'elle a grandi avec Aléa.
Peut-être ne s'agit-il pas de devoir les juger, mais de ne leur donner que le pouvoir de bien faire,
intervint Aléa.
Ce jour-là, les bardes chanteront faux,
ironisa Avendal.
Mjolnir trouva la réplique amusante et tapa des mains. Quelles autres nouvelles du royaume ? Demanda finalement Aléa, voyant qu'il ne servait à rien de s'éterniser sur Amine.
Le comte Mérian de Mor est devenu le vassal direct du comte Feren Alroeg, et Aeditus l'a converti et baptisé en public à Méricourt.
Les Brunois ont-ils depuis rejoint le christianisme, eux aussi ? Demanda Aléa.
C'est sûrement dans ce but, en effet, qu'Aeditus a baptisé le comte de Terrebrune. Cet homme à lui tout seul a déjà réussi à convertir 2 des 5 territoires de l'île. Sa religion va s'étendre en Gaelia, et on ne pourra jamais revenir en arrière. Chaque avancée du christianisme fait disparaître un peu plus la foi en la Moira.
Oui,
répondit Avendal.
Par centaines, si ce n'est par milliers.
Il y eut un murmure de consternation dans l'auberge.
Avez-vous d'autres nouvelles encore ?
Le barde haussa les épaules.
Des dizaines sûrement, mais je ne sais lesquelles vous intéressent. Il y a bien un fait étrange, cependant, dont j'entends de plus en plus souvent parler, et qui pourrait sans doute vous toucher.
Oui, le pressa Aléa.
On dit, mademoiselle, que vous avez le pouvoir de parler avec les loups. Est-ce que c'est vrai ?
Demanda le barde d'un air gêné.
Ce n'est pas tout à fait exact, mais pourquoi me parlez-vous de ça ?
3 seigneurs du sud de la galaxie ont lancé de grandes campagnes de chasse aux loups,
expliqua Avendal.
Leurs fourrures sont vendues de plus en plus chères, et il semble que la chasse aux loups soit en train de devenir une espèce de mode.
Fingin vit les poings d'Aléa se crisper. Les loups, ses frères. C'est sûrement à elles qu'on vise à travers eux. Mais qui a lancé ce mouvement ?
Quels sont les noms de ces 3 seigneurs ? Demanda Aléa, parvenant à peine à cacher sa colère.
Je ne connais que l'un d'eux. Germain de Gorbon.
La jeune fille se leva aussitôt, si brusquement même que Mjolnir sursauta à côté d'elle.
Je vous remercie de votre accueil, dit-elle rapidement. À présent, nous devons retourner au campement.
Elle sortit de la pièce d'un pas rapide, sous le regard médusé des clients de l'auberge. Fingin comprit que les dernières paroles de la jeune fille étaient un ordre. Il se leva, fit signe aux 4 autres, et remerciant poliment les villageois pour leur accueil, les compagnons d'Aléa sortirent à leur tour. Mérian de Mor avait accepté d'accompagner Aeditus dans le voyage qu'il faisait à travers la Terre Brune. Avec son aide, avait expliqué l'évêque, baptiser les Brunois en nombre serait chose bien plus aisée. Une 50aine de soldats seulement escortaient les 2 hommes, ainsi que 5 prêtres venus d'Arcourt et 10aine de séminaristes qui profitaient du voyage pour parfaire leur apprentissage. Au soir du 4e jour, l'évêque se trouva seul avec le comte dans le salon d'un petit manoir, à l'est d'Aïverine, un village où ils avaient reçu un excellent accueil. Dégustant une infusion bouillante que leur avait préparée leur hôte, assis devant la cheminée, ils se retrouvaient seuls en tête à tête pour la première fois.
« Avez-vous la foi, Mériande ? » demanda l'évêque très directement.
Le comte parut surpris.
« Je ne sais pas, monseigneur.
En toute honnêteté, je ne suis pas bien sûre de comprendre ce que cela veut dire.
Ressentez-vous en votre cœur la présence de Dieu? Traduisit à Éditus en souriant.
Peut-on la sentir de manière si certaine? Faut-il avoir la foi pour être un bon chrétien?
L'évêque refusa de répondre à cette question. Il dévisageait le comte comme s'il essayait de deviner quelque chose de caché sous son regard.
Quand vous avez demandé à être baptisé, l'avez-vous fait pour vous soumettre au comte d'Harcourt, ou l'avez-vous fait parce que vous étiez intimement convaincu de l'existence de Dieu?
Myriande hésita. Tout s'était passé tellement vite. Il ne s'était jamais posé la question en ces termes. En vérité, la chose s'était imposée d'elle-même.
J'avais dit à Alroeg que s'il parvenait à nous mener à la victoire, alors je croirais à la force de son Dieu. Quand nous avons remporté la bataille, j'ai tenu ma parole et annoncé que je voulais être baptisé.
Oui, mais était-ce seulement pour tenir parole, ou bien la victoire vous a-t-elle persuadé de l'existence de Dieu? Insista l'évêque.
Je vois bien ce que vous voulez me faire dire à Éditus.
Je veux simplement que vous soyez sincère. N'ayez crainte, ce qui compte pour le moment, c'est que votre geste soit un exemple pour les Brunois.
Vous pouvez parler librement.
Une chose est sûre, monseigneur, c'est que je ne ressentais jadis pas plus la présence de la Moïra que je ne ressens aujourd'hui celle de Dieu. En réalité, je l'accepte, simplement.
Alors vous n'avez pas la foi, Myriande le Bel.
Le comte se pinça les lèvres.
Vous n'avez pas répondu à ma question, reprit-il.
Laquelle? Demanda l'évêque.
A-t-on besoin d'avoir la foi pour être un bon chrétien?
Aéditus haussa les sourcils. Encore faudrait-il que l'on s'accorde sur ce que cela signifie d'être un bon chrétien. Et je crois que cela dépend fortement du contexte.
Mais encore?
En ce qui vous concerne, être un bon chrétien consiste peut-être en votre pouvoir de conversion. Dieu n'attend peut-être pas de vous une foi entière, mais votre capacité à convertir votre peuple lui suffit certainement.
Vous croyez? Elle suffit à Dieu ou elle suffit à vos desseins?
Je n'ai d'autre dessein que de servir Dieu.
Et vous? Vous avez la foi, monseigneur?
L'évêque éclata de rire.
C'est bien la première fois qu'on ose me poser cette question.
Et pourtant elle est légitime, puisque vous dites que là n'est pas toujours l'obligation d'un bon chrétien.
Aéditus acquiesça en souriant.
Alors, reprit Myriande, qui, lui, ne souriait pas du tout. Avez-vous la foi, monseigneur?
La foi n'est pas un objet qu'on acquiert et qu'on garde dans sa poche, Myriande. La foi est un combat de chaque instant, une victoire quotidienne. Je l'ai perdue et retrouvée des centaines de fois. Parfois je l'ai confondue, d'autres fois encore, elle m'a trompée. Mais plus la foi est vivante, plus elle est la preuve que Dieu l'est aussi. Contrairement à la Moïra, figée, oubliée et surtout mal comprise, Dieu est un compagnon de route que l'on cherche, à côté duquel on marche parfois, que l'on peut perdre et à qui l'on peut tourner le dos, mais qui toujours vous tendra la main.
Alors je chercherai, monseigneur, je chercherai la foi. Mais pour l'heure, je ne peux vous offrir que mon adhésion.
L'évêque sourit.
C'est déjà beaucoup, cher comte.
C'est hors de question!
S'exclama Fingin dans la tente, en tapant de son bâton sur le sol de terre.
Je partirai dès ce soir, répéta Aléa. Vous irez à Tarnéa sans moi. Je dois arrêter tout de suite ces chasses aux loups. Je le leur dois.
Elle tournait en rond sous le toit courbé de la grande tente, cherchant à se calmer au milieu de ses compagnons. Tous la regardaient d'un air gêné, hormis le druide qui, debout, essayait à lui seul de la raisonner.
Sans toi, notre voyage à Tarnéa ne servira à rien. Tu es notre seule chance de réussite. Vous n'avez pas besoin de moi. Au contraire, nous ne saurions même pas comment faire sans toi. Il faudrait probablement que nous utilisions la force pour nous faire entendre auprès du comte de Sarre, alors que c'est exactement le contraire de ce que tu cherches. Les loups ont bien plus besoin de moi. Ils étaient là quand leur aide m'a été nécessaire. Je n'ai pas le droit de les laisser se faire massacrer. Tarnéa n'est plus qu'à 3 ou 4 jours de marche. Nous avons risqué nos vies dans la montagne pour y parvenir. Il est hors de question d'abandonner maintenant. La chasse aux loups n'a pas commencé aujourd'hui. Elle dure déjà depuis quelque temps. Cela peut bien attendre encore un peu. Pas un jour de plus !
Hurla Aléa, dont les yeux s'étaient embués de larmes.
Pas un jour de plus, je ne tolérerai qu'on tue cet animal pour se venger de moi. Trop de gens sont déjà morts par ma faute, et à présent les loups ? Non, Fingin, je pars pour le sud.
Elle attrapa sa cape blanche et son bâton de chêne accroché au bord de la tente, et se dirigea vers la sortie. Erwan se leva d'un bond et l'attrapa par le bras.
Aléa, quand les loups ont attaqué les Gorgones, ils ont accepté de mourir pour toi. Ils ont accepté de mourir pour que tu puisses accomplir ton devoir. Par respect pour tous les loups qui sont morts ce jour-là, tu ne dois pas abandonner.
Ils n'ont pas accepté de mourir pour que je puisse accomplir quoi que ce soit, répliqua Aléa. Ils n'avaient conscience de rien du tout. Les loups n'ont pas ce type de conscience, Erwan. Ils ont suivi aveuglément ma louve, sans comprendre ce qui se passait réellement. Ils se sont battus par instinct, pas par raison.
Eh bien justement, c'est l'instinct qui te pousse à vouloir partir quand la raison devrait te dicter de rester avec nous. Fingin a raison. Sans toi, nous ne pourrons rien faire à Tarnéa. Mais si vraiment tu veux aller t'occuper des loups, alors nous descendrons tous avec toi. Nous serons plus utiles à tes côtés que sans toi devant les portes de la capitale de Sarre.
Non, j'irai seule cette fois-ci.
Erwan soupira. Il avait oublié combien Aléa pouvait être têtue. Il ne savait plus quel argument utiliser. Il tenait toujours le bras de sa compagne. Elle le fixait du regard. Un regard décidé. Il tourna les yeux vers les autres pour trouver un peu de soutien. Il vit alors Caitlin qui se levait à son tour. Aléa se retourna brusquement.
« Vous n'allez pas essayer de me convaincre chacun votre tour ? »
s'exclama-t-elle. Caitlin haussa les épaules.
« Ah non, » répondit-elle. « Moi, je veux juste sortir de cette tente, parce que si j'entends encore ta voix et les inepties que tu débites, je vais avoir envie de te gifler. Et nous autres cheminants, n'aimons pas violenter les enfants. »
Aléa écarquilla les yeux.
« Quoi ? »
balbutia-t-elle décontenancée.
« Aléa, tu m'ennuies. Je sors. »
Et l'actrice s'exécuta. Elle passa devant Erwan et Aléa, souleva le drap de la tente et sortit sans ajouter un seul mot. Les autres restèrent silencieux un moment, échangeant des regards gênés. Puis Aléa sortit à son tour et disparut dans l'obscurité qui englobait le campement. Maître Géant était le premier batteur de la louveterie de Gorbon. C'était un homme fort laid, qui cachait une moitié atrophiée de son visage sous une capuche de cuir. Au chapeau, il portait la plume blanche des louvetiers, et il était vêtu d'un habit de drap vert aux parements et collets en velours cramoisi. Très grand et mince, il avait une démarche étrange, vive et maladroite à la fois. C'était un être aigri, qui aurait aimé prendre la place de grand veneur réservée à plus noble que lui. Mais Géant devait se contenter de mener les battues. Il n'avait pas le privilège de tirer, ni même celui de guider les chiens. Ce matin-là, il se leva avant le soleil pour préparer la journée exceptionnelle qui s'annonçait. Depuis plusieurs jours, le seigneur de Gorbon s'était montré de plus en plus pressant, exigeant que l'on augmentât encore le rendement de la louveterie, qui était pourtant déjà fort bon. Ainsi, Germain de Gorbon avait décidé de participer lui-même à la grande vénerie que devait organiser la louveterie en ce jour de la Moïra. Les travaux de campagne étaient désormais interdits tant que durerait la chasse, et tous les habitants du domaine avaient été prévenus. Maître Géant fut le premier levé dans la louveterie. Il commença par amener dans la grande cour les bâtons qu'il avait fait fabriquer la veille. Puis il partit réveiller le maître chien, qui devait s'occuper du chenil, et le grand veneur, qui allait mener la chasse. Enfin, il installa une grande table près de l'entrée du château où l'on pourrait accueillir les gens. Comme le soleil se levait enfin, Jehan vit arriver les nobles et les manants en nombre dans l'enceinte du château. Avec l'aide de deux autres louvetiers, il partit accueillir les nouveaux arrivants. Selon qu'ils étaient paysans ou seigneurs, il devait les diriger soit du côté des batteurs, soit du côté des veneurs. On donnait à ces derniers arcs et flèches, ainsi que quelques lances et quelques dagues, bien plus difficiles à utiliser, certes, mais qui pouvaient se révéler plus efficaces si les loups se mettaient à attaquer. Quant aux paysans, on leur donnait simplement les bâtons dont ils auraient besoin pour participer à la grande corvée de battue. Quand tout le monde fut arrivé et que chacun eut été assigné à sa tâche, le maître chien amena ses bêtes et les présenta aux batteurs, qui allaient devoir marcher avec eux tout le jour et peut-être même davantage. Il y avait là une cinquantaine de chiens d'ordre, dressés à forcer le gibier, contrairement à la petite dizaine de limiers restés au chenil, qui, tenus en laisse, cherchaient l'animal avant la chasse. Le soleil était suffisamment haut à présent pour apparaître au-delà des remparts. Il était temps de se mettre en route. Juste avant le départ, le seigneur de Gorbon fit un bref discours.
« Je vous remercie tous d'être venus pour cette grande vénerie. Jamais nous n'avons organisé de chasse si grande, et je suis heureux d'y participer à vos côtés. Les batteurs, menés par Maître Jehan, partiront les premiers avec les valets de chiens. Ils devront contourner le grand bois au sud du château et commencer la battue en remontant vers le nord. Pendant ce temps-là, mes chers seigneurs, nous formerons 5 groupes de veneurs et descendrons du nord vers le sud pour affronter les bêtes qu'auront traqué les chiens. Hier, le premier veneur et les valets de chiens ont fait le bois avec leurs limiers. Ils ont repéré au sud du château au moins 2 meutes. La vénerie ne sera achevée que quand les 2 meutes auront été abattues, soit une 15aine de bêtes. Et jusqu'alors, la reprise des travaux de campagne est formellement interdite. Quiconque sera surpris en train d'abandonner la chasse sera jugé et banni. En revanche, si les 2 meutes sont décimées, tous les paysans qui auront participé seront dispensés le mois prochain de droits de blé et de fermage, et les veneurs recevront les honneurs de l'Alali et pourront se partager les peaux des loups.
Il y eut des cris d'acclamation dans la foule. Puis Maître Jehan, le premier batteur, fit signe aux manants de prendre leur bâton et de le suivre. Ils sortirent de l'enceinte du château et partirent d'un pas rapide vers le sud, précédés par les valets et leurs chiens d'ordre. Jehan connaissait quelques-uns des paysans, mais il préférait ne pas leur parler. Il allait en tête, seul, essayant de garder le rythme de marche soutenu qu'imposaient les chiens à l'avant. Le maître louvetier n'aimait pas les hommes, pas plus que les bêtes d'ailleurs. La nature ne lui avait jamais rendu la vie facile. Il n'avait pas l'intention de s'attendrir sur le sort de quiconque. Les batteurs discutaient entre eux derrière lui, mais lui ne disait pas un mot. À cet endroit du domaine, les herbes étaient hautes et épaisses, ce qui rendait la marche plus difficile. Jehan commença déjà à se servir de son bâton pour couper l'herbe devant lui autant que possible, mais il ne voulait pas non plus trop fatiguer ses bras. La sueur coulait sur son front, le long de sa capuche brune. Les valets de chiens gagnaient de la distance. Il fit une halte, regarda les batteurs qui traînaient derrière lui. Il s'essuya du revers de sa manche, cracha par terre et se remit en route. Bientôt ils arrivèrent près du grand bois. Ils longèrent l'orée par l'ouest, se tenant à distance pour ne pas effrayer les bêtes tout de suite. Il fallait les rabattre vers le nord, et donc attendre d'être le plus possible au sud du bois avant de commencer la battue. Jehan avait l'habitude des vénéries dans la région, mais il n'avait jamais emmené autant d'hommes. Ils étaient près de 80 à le suivre. Mais combien seraient capables de tenir jusqu'au bout? Quand il arriva sur la petite colline, comme il l'avait espéré, Mjoln vit la silhouette d'Aléa, assise parmi les herbes, la tête entre les mains. Il s'arrêta à quelques pas, sans faire de bruit, et resta de longs instants immobile, à regarder l'ombre de la jeune fille qui se dessinait sur l'horizon étoilé du ciel nocturne. Elle avait l'air si seule, si démuni, peut-être plus encore que la première fois qu'il l'avait vue sur les routes de la galaxie, le jour où elle l'avait aidé à se défendre contre ce groupe de bannis en leur jetant des cailloux. Comme le temps avait passé depuis lors. Il s'en voulait tellement. Tellement de s'être si souvent montré égoïste, alors que la petite devait porter sur ses épaules un poids que lui-même n'aurait jamais supporté. L'histoire était en train de se jouer. Maintenant. Une seule fois. Il n'y aurait pas de deuxième chance. Aléa, elle, l'avait compris et l'assumait chaque matin, chaque jour, devant chaque épreuve. La Gaëlia devait changer. Mjoln devait s'y résigner et accepter de participer à cette histoire. Et s'il n'y avait qu'une seule chose que le nain devait faire, c'était aider Aléa, aider sa lanceuse de cailloux. S'il ne le faisait pas aujourd'hui, il ne pourrait jamais se le pardonner. Toute sa vie, il saurait qu'il n'avait pas saisi sa chance. Aléa avait besoin de lui, comme elle avait besoin de tous les autres. Et si un seul d'entre eux manquait à l'appel, le danger qu'elle encourait n'en serait que grandi. Jeanne, laisse-moi seule. J'ai besoin de réfléchir. Aléa n'avait pas bougé. Sa tête était toujours plongée entre ses mains. Elle l'avait entendu, simplement.
Non, Aléa,
répondit Mjoln en marchant vers la jeune fille.
Ça, non, tu n'as pas besoin de réfléchir. Maintenant, tout ce dont tu as besoin, c'est qu'un gros nain stupide vienne te tenir la main.
Tu n'es pas gros et tu n'es pas stupide.
Bon, peut-être, mais je suis bien un nain.
Aléa haussa les épaules et secoua la tête. Mjoln vint s'asseoir à côté d'elle. Il resta un long moment comme ça, près de son ami, sans bouger. Puis il cueillit une petite fleur devant lui et se mit à la faire tourner entre ses paumes.
« Aléa,
dit-il finalement.
J'ai peut-être une solution. Je crois que, oui, Atarnéa, tu es irremplaçable. Et je crois, quoi que tu en dises, que tu dois vraiment y aller. Tu ne peux pas abandonner, car ça, les Harcourtois, satanés Harcourtois, risquent de prendre la Sarre si nous leur en laissons le temps.
Je sais.
En revanche, pour les loups, tu n'es pas irremplaçable. Quelqu'un d'autre que toi peut aller empêcher les chasses qu'on organise, ça, oui. Alors voilà ce que Mjoln Abak, cornemuseur et barde en devenir, te propose. J'irai, moi, m'occuper de ces mauvais chasseurs de loups pendant que tu iras, toi, à Tarnéa.
Aléa releva la tête et regarda son compagnon. Non, Mjoln, dit-elle en soupirant. C'est une idée bonne et surtout généreuse. Mais j'ai bien réfléchi. Et je ne vois pas ce que je pourrais faire en allant là-bas, de toute façon. Je ne vais pas aller tuer tous les chasseurs. Je ne vais pas mettre le feu aux louveteries. Cela ne servirait à rien. Et je ne peux pas non plus partir défendre tous les loups. Je ne saurai jamais où donner de la tête. Non, vous avez raison. Il faudra que je trouve une autre solution. Nous irons bien d'abord à Tarnéa. Mjoln, surpris, attrapa la main de la jeune fille et déposa un baiser dessus, puis il la garda contre lui.
Je crois que c'est une bonne décision. Je crois que Félim aurait aimé ça.
Aléa lui sourit. Il vit qu'elle avait des larmes au coin des yeux. Tu sais, dit-elle en appuyant sa tête sur l'épaule de son vieux compagnon, le plus dur, c'est que je ne sais même pas si Imala est encore vivante. Elle a peut-être été tuée par les Gorgounes, ou bien peut-être maintenant par les chasseurs.
« Je suis sûre qu'elle est en vie, »
répliqua le nain.
« Elle était, ça oui, forte et agile. Elle se laisserait pas faire. Il est pas né. Le chasseur qui attrapera une louve pareille, ça, j'en mets ma barbe blanche à couper. »
« J'espère que tu as raison. »
Moi aussi. J'aime bien ma barbe.
Puis ils se turent, écoutant ensemble le chant discret de la nuit. Aléa resta un long moment la tête sur l'épaule du nain. Elle écoutait battre son cœur si bon. Soudain, ils entendirent un craquement derrière eux. Mjoln sursauta, et Aléa se retourna. C'était Agor. Il les avait aperçus et marchait vers eux. C'était un touatane, et s'il avait voulu, il aurait pu approcher sans faire de bruit. Mais sans doute avait-il voulu se signaler, afin de ne pas briser leur intimité. Aléa l'accueillit avec un sourire. « Quand je vois la beauté de ce ciel, » dit-il en venant s'asseoir près de sa sœur, « ces milliers d'étoiles, je me demande comment nos pères ont pu accepter de descendre vivre sous la terre. »
« Ça oui !» répondit Mjoln. « Ça devait leur manquer. Sais-tu qu'il y a une étoile dans ce ciel que j'ai nommée Aléa, il y a longtemps, quand j'ai rencontré ta sœur ?»
Le Touatane sourit. « C'est une bonne idée. Aléa, une étoile. Oui, bonne idée. » Puis il se tourna vers elle. « Alors, petite sœur, as-tu pris ta décision ?»
Aléa acquiesça.
« Oui, je reste avec vous. Nous irons à Tarnéa.
Les Touatanes te suivront, où que tu ailles. »
« Il faudra bien un jour que je les quitte, d'accord ? Il y a certaines choses que je dois accomplir seule. »
« Je sais, » répliqua le Touatane. « Mais ce jour-là, tu as intérêt à partir en secret, parce que mes frères refuseraient de te laisser. »
« Je vous suis à tous très reconnaissante, d'accord ?
Nous te sommes redevables. Notre peuple a chassé ta mère, jadis, notre mère. Et tu as grandi sans parents par notre faute. Nous voulons corriger cette faute. Nous sommes ta famille, petite sœur. »
Je sais. Merci.
Elle prit la main de son frère, à droite, celle du nain, à gauche, et les invita à se lever.
Retournons au camp. Nous allons avoir besoin de sommeil.